الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. Chers frères, chers sœurs, le sujet d'aujourd'hui touchera sur la sadaqa et la générosité en islam. D'abord, depuis longtemps, nous vivons dans un monde, dans une époque où le matérialisme l'emporte sur tout le reste, où on voit mettre en avant l'individualisme, l'égoïsme, l'égocentrisme. Et l'islam nous a appris depuis toujours de combattre, si vous voulez, ces fléaux et surtout de nous apporter cet islam le juste milieu entre d'un côté l'aspect matériel et l'aspect spirituel ou temporel, l'aspect temporel et l'aspect spirituel, ce juste milieu que l'islam nous a transmis et à travers lequel sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, a éduqué ses compagnons et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que quand on regarde les piliers de l'islam, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce sont des actes d'adoration. Si on prend les cinq prières par exemple, elles viennent ponctuer une journée pleine et remplie de choses et d'autres qui nous font oublier Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous font oublier, qui nous mettent en avant l'aspect matériel. Et la prière vient ponctuer cette journée pour nous dire stop, Allahu Akbar, Dieu est plus grand que tout, et mettre en avant pour cette fois-là l'aspect spirituel, l'aspect qui doit nous mettre en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et nous permettre de relativiser ce bas monde. Et il en va pour chacun de ces piliers. Si on prend le jeûne du mois de Ramadan qui vient ponctuer une année où on n'a fait que manger, se nourrir, parfois de choses qui sont nuisibles au corps, eh bien pendant un mois, on se consacre à mettre en avant l'aspect spirituel justement pour une coupure. Pour dire, nous n'avons pas oublié Allah subhanahu wa ta'ala, que nous devons nous maîtriser. Nous ne sommes pas que ces corps que tu nous as donnés comme enveloppe, mais il y a en nous ce ruh, cet aspect spirituel qu'il faut faire vivre. Et il y a enfin la zakat. Cette zakat qui vient, par laquelle on donne une partie de nos biens, un surplus de nos biens, je le rappelle, pour nous purifier. Mais également, puisque si le jeûne, un des aspects du jeûne, c'est aussi de nous faire sentir la faim des pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de se nourrir correctement, de partager cette souffrance, la zakat vient aussi nous faire partager, mais cette fois-ci, nos richesses, nos biens. Nous éduque à faire partager nos biens, elles font appel à notre générosité intérieure. Car l'être humain, s'il n'y a pas ces rappels, le côté avare de l'être humain se met en avant. Et donc l'islam nous apprend qu'il faut toujours un juste milieu et surtout nous éduque à cette générosité. Et si on prend le mot sadaqa, sadaqat au pluriel qu'on retrouve dans le Coran, qui veut dire toute œuvre bonne, toutes les bonnes œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de pratiquer. Et cette sadaqa est bien sûr un acte de générosité. Cette sadaqa, si on la compare à zakat qui est obligatoire, c'est un des piliers, mais qui fait quand même appel à cette générosité individuelle, eh bien la sadaqa, contrairement à zakat, n'est pas imposée. C'est un acte non obligatoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire envers ceux qui n'ont pas les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, comme Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé ce monde, il a créé des lois, des règles. Ainsi, il y a des forts, il y a des faibles. Hein? Il y a des grands, il y a des petits. Eh bien, il y a aussi des pauvres et il y a des riches. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'attend de nous? Il attend de nous justement qu'on, à travers ce qu'il nous a ordonné, rétablir cet équilibre, cette balance, ce juste milieu, car c'est une épreuve pour chacun d'entre nous. La pauvreté est une épreuve pour celui qui la vit, la richesse est également une épreuve pour celui qui la vit. Et à chacun de nous d'agir selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulu de nous, pour qu'il y ait une sorte d'harmonie, si vous voulez, dans ce monde en déséquilibre perpétuel. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à nous de rééquilibrer cette balance. Ainsi donc, c'est un acte de générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, nous a dit dans un hadith, l'homme généreux est proche d'Allah, il est proche des gens et il est proche également du paradis, mais il est éloigné de l'enfer. Quant à l'avare, il est éloigné d'Allah, il est éloigné des gens, il est éloigné du paradis, mais il est proche de l'enfer. D'ailleurs, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un ignorant généreux est plus agréable à Allah qu'un dévot avare. Donc ceci nous en dit long sur l'importance de cet acte de générosité. Il est bien sûr aussi un acte de sincérité, car Allah subhanahu wa ta'ala est pur et n'accepte que ce qui est pur, que ce qui ne vise sa satisfaction. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum billumni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez la foi, ô vous qui avez l'iman, attention, n'annulez pas vos sadaqa, n'annulez pas vos actes de bienveillance, vos actes de bienfaisance en faisant du mal ou en faisant un rappel au mal, comme ceux qui donnent. Regardez l'exemple contraire, comme ceux qui donnent, mais uniquement pour se faire voir des gens. C'est ceux qui donnent pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la face de Dieu, qui auront toute la récompense. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tout ce que vous donnez de khayr, de bien, eh bien c'est en réalité pour vous-même. C'est vous qui allez en récolter les bénéfices. Quant à l'avare, c'est lui qui va en subir toutes les conséquences. Et il nous dit, وَمَا تُنْفِقُوا, et ne faites pas de sadaqa, ne donnez rien, si ce n'est que vous visiez en cela la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne visez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que l'on donne. Et le prophète de dire dans un hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas les apparences, لَا يَنْدُرُوا إِلَى سُوَارِكُمْ وَلَكِنْ يَنْدُرُوا إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. Il regarde vos cœurs, cette sincérité qui est le fond de vous-même, et il regarde vos œuvres. La foi est une épreuve. La sadaqa est une épreuve. Car l'être humain, je l'ai dit tout à l'heure, de par sa nature est avare. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَنْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانَ قَطُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, قُلْ, dis-leur ya Muhammad, si vous aviez toutes les richesses de la miséricorde de mon Seigneur, alors vous auriez peur de la dépenser et vous la garderiez pour vous. Vous vous rendez compte, si on avait toute la richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme miséricorde, on voudrait la garder que pour nous-mêmes. Car l'être humain en réalité est avare. وَمَنْ تُوقَ شَحُّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et celui qui se sera préservé de son avarice, eux seuls seront les gagnants et ceux qui réussissent. C'est également un acte de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'ai dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala a comblé certains de ses serviteurs de richesses dont il n'a pas comblé d'autres, mais il aura donné bien sûr d'autres bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Et c'est une reconnaissance. Dans un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, ô fils d'Adam, dépense et je dépenserai pour toi. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à donner, comme pour nous dire, ce que vous dépensez vous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc n'ayez pas peur, car Allah dépensera pour vous. La main de Dieu est pleine et aucune dépense dure telle nuit et jour ne saurait l'épuiser, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, hadith rawah Bukhari. La sadaqa multiplie les biens également, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Si je donne, hein, Shaitan, qu'est-ce qu'il nous insuffle, Louis-Sois, il dit, si tu donnes, ça sera ça en moins que tu auras pour toi. C'est faux, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, aucun jour ne se lève sur les serviteurs de Dieu si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie deux anges. Le premier dit, ya Allah, accorde à celui qui dépense pour le khayr, qui fait des sadaqat, l'ange lui dit, ya Allah, donne-lui une compensation à celui-là. Compense-le, ya Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui retient, qui ne veut pas donner, alors celui-là diminue de ses biens, fait en sorte qu'il ait moins de biens. Donc ne croyez pas que le fait de donner avec confiance, avec sincérité, avec confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, va diminuer quoi que ce soit de vos biens. Au contraire, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'image, l'exemple de celui qui donne في سبيل الله, celui qui donne des sadaqat في سبيل الله, c'est comme, il nous donne l'exemple d'un épi de blé, un grain de blé, lorsqu'on le plante. Qu'est-ce qui se passe? Il en sort 7 épis, et chacun des épis contient 700 grains, multiplié par 700 fois. Autrement dit, celui qui donne, plante, ça lui sera démultiplié. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait combien nous réservera comme récompense à celui qui donnera en toute sincérité. Et puis la sadaqa en fait purifie. C'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ceux qui donnent la sadaqa, elle purifie. وَإِن تُبْدُوا صَدَقَاتِ الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous donnez une sadaqa, alors c'est une bonne chose. Si vous la cachez, c'est encore mieux pour les indigents, pour les pauvres. Et il vous fera pardonner par cela, il vous effacera tous vos péchés. Allah est au courant et le mieux informé de ce que vous faites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que la charité, le fait de donner l'aumône, éteint les fautes comme le feu est éteint par l'eau. Comme le feu est éteint par l'eau. Ainsi, lorsqu'on parle de sadaqa, on parle bien sûr de donner des biens licites. J'ai dit qu'Allah était pur et qu'il n'accepte que ce qui est pur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith de dire, il ne faut pas qu'un serviteur acquiert un bien illicite, fasse dessus des dons de charité et que ces dons soient agréés. Allah le Très-Haut n'efface pas la mauvaise action par la mauvaise action. On ne peut pas se racheter, on ne peut pas faire une mauvaise action en espérant racheter une mauvaise action. Mais la turpitude n'efface pas la turpitude, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par la bonne action, c'est ce qu'il a dit un jour à Mu'adh, ya Mu'adh, hein, fais, si tu as commis des erreurs, fais une bonne action, car cette bonne action va effacer la mauvaise. Et puis enfin, la sadaqat nous aide aussi à combattre l'indifférence. Wallah, on vit dans un monde aujourd'hui, chacun pour soi. Chacun pour soi, chacun vit pour lui-même, chacune des personnes vit pour soi-même. Et ça, c'est le plus grand fléau qui puisse toucher cette terre. Parce qu'on parle d'humanité et d'humanitaire sans solidarité. Mais il n'y a pas d'humanité sans solidarité. C'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé ainsi pour que nous nous entraidions les uns les autres, pour qu'il y ait une solidarité les uns envers les autres. Ainsi, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'a pas atteint le summum de la foi. La yu'minu ahadukum. N'a pas atteint le summum de la foi. Qui est Rasulullah? Celui qui dort le ventre plein alors qu'il sait que son voisin a faim, que son voisin est affamé. Comment pourrais-tu dormir, ou mon frère ou ma sœur, toi qui t'es bien rassasié, qui as bien rassasié ta famille, en sachant que ton voisin ou quelqu'un que tu connais ou même que tu ne connais pas dort lui le ventre vide et qu'il ne sait même pas ce qu'il va avoir le lendemain comme nourriture. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous préparer et de donner pour préparer notre mort, car en réalité c'est pour cela que l'on agit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dhar radiallahu anhu, il a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, penses-tu, ya Abu Dhar, que la richesse soit l'abondance des biens? Oui, prophète, lui répond naïvement Abu Dhar. Et tu penses donc que la pauvreté est la rareté des biens? Lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Dhar de répondre, oui prophète, non. La vraie richesse est celle du cœur et la vraie pauvreté est également celle du cœur. Autrement dit, la générosité, c'est un musulman, c'est un état d'esprit. C'est un état dans lequel il est continuellement, perpétuellement, qu'il soit riche matériellement ou pauvre. C'est un état d'esprit. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, et les compagnons ont décrit le visage du prophète quand il a vu ce miséreux, cet indigent, on voyait qu'il portait toute la souffrance de son indigence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont dit que son visage a changé alors qu'il souriait. Et il est monté sur le minbar, il a fait une exhortation à ce que les gens donnent, et tous les gens ont donné walillah alhamd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de donner à cet indigent deux vêtements. Et quand cet indigent a entendu que le prophète a dit qu'il fallait donner, il a donné le deuxième vêtement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné, alors que lui-même était indigent. Donc c'est un état d'esprit, un état dans lequel il faut être continuellement, et non pas se dire il n'y a que les riches qui donnent, et les riches de donner de manière arrogante, parce qu'ils pensent qu'ils sont les meilleurs parce qu'ils ont de l'argent. C'est faux. Qarun, l'histoire de Qarun dans le Coran. Lisez cette histoire de Corée dans le Coran, cette histoire d'un homme qui vit au temps de Moussa, qui se croit le plus fort parce qu'il a la plus grande richesse. Et il a fait défiler devant tous les gens pour montrer à quel point il est riche. Mais encore pire que cela, il croit que cette richesse, il l'a acquise par lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir la terre et va l'engloutir pour montrer aux gens, voilà ce qu'il réserve aux gens qui sont orgueilleux et arrogants et qui croient qu'ils ont tout ce qu'ils ont acquis par eux-mêmes. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Il nous le rappelle tout le temps. Donnez de ce que nous vous avons octroyé. N'oubliez jamais d'où cela vient. Et c'est ça la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de redistribuer tout simplement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous a honoré en nous le donnant, le redistribuer. Et comment ne pas parler de la générosité sans parler celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple un jour un bédouin lui a coupé la route et lui a dit méchamment, tu dois me donner ci et ça et cela. Et le prophète de sourire, regardez le comportement du prophète face à ce bédouin, arrogant, dur, parce que le prophète connaissait bien ces bédouins, et dur, ce bédouin lui réclame, je réclame pas du bien de tes parents, mais je réclame de tes biens à toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que tu me donnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais qui te dit que je vais te le donner si tu me le demandes sur ce ton-là, en souriant. Et vous savez ce qu'il répond le bédouin? Il lui dit, parce que je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est prophète, plus on monte le ton, plus il est doux et généreux avec nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sourire et va ordonner à ce que les compagnons donnent des biens du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet homme qui est venu de manière arrogante, choquante presque, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de bien réagir. Et on a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a jamais dit non. Jamais il a refusé d'aider quelqu'un, à un tel point qu'un jour quelqu'un est venu lui demander une aumône et le prophète n'avait plus rien, mais il n'avait rien du tout. C'est ce qu'il a fait, il a dit, viens, tu vois un tel, c'est un commerçant, tu lui dis que tu viens de ma part et que t'empruntes à mon nom, tu prends cet argent et tu t'achètes ce dont tu as besoin. À tel point qu'il faisait emprunter quand il n'avait pas en son nom sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons de le décrire en disant qu'il était généreux tel le vent continuel. Vous avez vu le vent quand il souffle, il ne s'arrête pas le vent. Il souffle. La générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ce vent. Jamais il n'a refusé de donner, au contraire, même quand il était, quand il n'avait rien. Et c'est comme ça qu'il a aidé et éduqué les compagnons. Regardez cette concurrence de cette histoire que vous connaissez tous entre Omar radiallahu anhu et Abu Bakr. Lorsque le prophète demande une participation des compagnons, Omar vient dans l'esprit de gagner. Regardez cette concurrence dans le khayr. Je vais gagner. Il est fier de lui parce qu'il a amené avec lui la moitié de ses biens. C'est énorme. La moitié de ses biens, de tous ses biens, de tout ce qu'il possède. Et il vient fier de lui. Et lorsqu'il donne, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que non seulement Abu Bakr est là avant lui, mais en plus Abu Bakr a donné tous ses biens. Et le prophète de le réprimander, de lui dire, mais qu'est-ce que tu laisses à tes enfants et à ta famille? Et Abu Bakr de dire avec une foi, une certitude qui lui vaudra le nom de As-Siddiq, le véridique, Taraktu lahum Allah wa Rasuluh. Je leur ai laissé Allah et son messager. Regardez cette concurrence dans le bien. Et c'est comme ça qu'il doit être musulman, se concurrencer dans le khayr. Et Aïcha radiallahu anha, qui n'avait plus rien, même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un jour on lui a fait un cadeau. Alors qu'elle jeûnait, et elle a demandé à une dame qui était avec elle de tout distribuer. Et elle a tout distribué, tous les biens qu'elle avait reçus. Si bien que, à la fin, la dame n'a pas osé interpeller Aïcha en lui disant, mais il ne reste plus rien, tu aurais pu garder au moins de quoi rompre ton jeûne, t'acheter un petit truc, du pain, de la viande, je ne sais pas. C'est ce qu'a dit Aïcha. j'ai oublié. Radiallahu anha. J'ai oublié. Elle s'est oubliée elle-même. C'est comme ça qu'était cette génération que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué. Il n'y a pas très longtemps, enfin, pour relativiser, ça se passe dans les années 40, il y a Cheikh l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, qui fait une intervention dans une mosquée. Il y a des milliers de personnes. Et il reçoit une lettre. Et il lit la lettre. Et ses compagnons qui étaient avec lui n'ont pas compris, parce qu'il s'est retourné et il a frotté ses yeux. En fait, il venait de pleurer. Vous savez pourquoi il a pleuré ? Parce qu'il avait vu dans cette lettre quelqu'un qui a dit « J'ai entendu ton appel, j'ai entendu ce que tu as demandé et j'ai décidé de vendre mes biens et de le donner pour la cause pour laquelle tu œuvres, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et Cheikh Hassan al-Banna s'est retourné en pleurant en disant « Alhamdulillah, qu'Allah a fait qu'il y ait des gens comme cela et grâce à qui l'islam va s'élever par des gens comme cela. » Ce même Cheikh Hassan al-Banna, rahimahullah, il y avait des gens qui le suivaient partout. Partout où il allait faire des interventions. Et un jour, un homme qui jamais n'a été en retard à ses interventions, mais jamais, un jour il est arrivé en retard. Le deuxième jour il est arrivé en retard, le troisième jour. Et un jour, Cheikh Hassan Benna lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai jamais vu en retard et ça fait 2-3 jours que tu es en retard. Et l'homme n'osait pas répondre. Il lui dit, mais dis-le moi, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, j'ai entendu, Yacher, que tu avais fait un appel pour des centres islamiques, pour construire des choses pour le bien de l'islam, et je n'avais rien. Et la seule chose, le seul bien que je possédais, c'était mon vélo avec lequel je me rendais à la mosquée qui me permettait d'arriver par retard. Je l'ai vendu et je t'ai donné cet argent. Et Cheikh Hassan al-Banna tout de suite a fait une intervention, il a dit, je vous ordonne tous de cotiser. Ils ont cotisé, ils lui ont racheté un vélo. Regardez cet état d'esprit dans lequel étaient ces musulmans. Ils vendaient leur bien le plus cher pour que d'autres, que eux ne manquent de rien. Et c'était la particularité des gens qui ont été éduqués par l'islam, par des gens sincères et pieux. Un jour, en Angleterre, un jeune médecin qui fréquentait cette mosquée parlait d'un congrès international qui avait lieu dans une partie du monde. Et il ne rêvait que d'y aller. Et un jour, un cheikh qui était là dans la mosquée a vu que ce jeune était plein d'entrain et voulait vraiment se rendre à cette conférence, mais il n'avait pas les moyens. Alors qu'est-ce qu'il a fait ce cheikh? Il lui a pris un peu d'argent. Un jour il est venu à la prière du Fajr, il a pris un peu d'argent et il le lui a donné. Il lui a dit, tiens, je vois que tu as envie d'y aller, je te donne cet argent. Il a pris cet argent, il s'est rendu à sa conférence et vous savez ce qu'il a vu? C'était dans un pays musulman d'Afrique noire et il a vu la misère des musulmans. Il était conduit, en fait c'était le taxi qu'il conduisait, il est passé par les bidonvilles, il a vu et il a pleuré tout le long de la route. Il a dit, c'est pas possible que nous musulmans puissent laisser faire ça. Et il est revenu, vous savez ce qu'il a fait? Il a créé le Secours islamique. Il a créé le Secours islamique. Aujourd'hui, Cheikh Hani al-Banna, le président du Secours islamique, dont les bureaux sont partout dans le monde, dans tous les pays, il siège même à l'ONU, dans les ONG de l'ONU, partout. Imaginez la récompense de celui qui en premier a donné une sadaqa dans l'espoir de rendre heureux un croyant, un musulman. La récompense, hein, souvenez-vous les pieds de blé dont je vous ai parlé tout à l'heure, la multiplication qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve à celui qui a fait juste le geste. Il est à l'origine d'une construction extraordinaire, celle du Secours islamique qui vient en aide à tous les pays musulmans et non musulmans. Tout là où il y a de la misère, ils sont les premiers à intervenir dans des endroits difficilement accessibles. Ils sont là-bas. Voilà le rappel que je voulais vous faire. Il y a plusieurs informations pour cette mosquée. La première, c'est les futures veillées. Alors, samedi 13 mai 2006, à 20h30, il y a une veillée spirituelle pour les femmes, ici même, dans cette mosquée. Le samedi 20 mai, il y a une veillée mensuelle, ici même, avec Farid Abdelkrim. Et puis enfin, le 24 juin, il y a le retour du Cheikh Zakaria, ici même, dans cette mosquée. Et enfin, nous avons la présence parmi nous d'un frère du Comité de la Bienfaisance pour la Palestine, le CBSP, que vous connaissez tous, puisqu'il est déjà venu à plusieurs reprises ici. Vous avez eu l'occasion de montrer à plusieurs reprises, votre générosité. Et le frère Mouloud, qui est ici parmi nous, donc délégué du CBSP, va prendre la parole un petit peu tout à l'heure après la prière. Donc je vous demande, barakallahu fikoum, de patienter avec nous, de ne pas bouger jusqu'à ce qu'il finisse. Il n'y en aura pas pour longtemps, inshallah. Vous connaissez le vécu aujourd'hui de nos frères en Palestine. Vous connaissez la misère dans laquelle ils sont. Et on n'a pas le droit, nous musulmans, de laisser nos frères, nos sœurs mourir de faim alors qu'ils se battent pour garder les lieux saints. On n'a pas le droit, les frères et les sœurs. Donc tout à l'heure, l'Akh Mouloud, Inch'Allah, va nous parler un petit peu de la Palestine. Et donc, nous comptons, comme nous avons eu l'habitude, que vous nous étonniez à travers vos dons et votre générosité par laquelle vous nous avez jamais déçus. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل أعمالنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل أعمالنا اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا من المتصدقين المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخوتنا في فلسطين وقوي إيمانهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين وانصر إخوتنا المجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا لصلاتكم يرحمكم الله